Vous écoutez On lit pour vous.
Quels sont les effets des grosses chaleurs sur les personnes lésées médulaires? Un texte d'Aline Van Compernol, paru dans la revue Paraquad numéro 163, été 2024. Comme le froid, la chaleur est l'ennemi des lésés médulaires. Savez-vous que les brûlures les plus fréquentes chez les lésés médulaires sont causées, entre autres, par le soleil? Le guide « Vivre avec une lésion médulaire », édité par Mémo Québec et distribué à chaque nouveau blessé par nos conseillers en intégration, comporte plusieurs pages sur la question, dans les chapitres 2, « Sauver sa peau » et 9, « Les complications, mieux vaut prévenir » et vous permet de vous informer au besoin. Voici les éléments qui y sont présentés sur les effets d'extrêmes chaleurs estivales et les précautions à prendre. À la suite d'une lésion médulaire, certaines fonctions de la peau sont altérées. Il est courant pour les personnes ayant une tétraplégie et une paraplégie haute, plus haute que des 6, et surtout lorsque la lésion est complète, que le corps perde sa capacité à transpirer, même lors de grandes chaleurs. Le système thermorégulateur fonctionnant moins bien, il est important de chercher à diminuer sa température corporelle par différents moyens, comme s'asperger d'eau. Pour bien comprendre la régulation de la température du corps, comparez-le à votre budget. Pour vous maintenir à flot, vous avez besoin de parvenir à l'équilibre entre vos revenus et vos dépenses. Pour votre corps, l'équilibre doit se faire entre la production de chaleur et la perte. Le thermostat situé dans le cerveau est régulé par les signaux qu'il reçoit de votre corps et de votre environnement, signaux qui lui parviennent par le réseau du système nerveux autonome. Habituellement, la température du corps se situe entre 36,1 et 37,8 degrés Celsius, ceci indépendamment de la température extérieure ou de la quantité de chaleur produite par le corps. Cependant, à la suite d'un traumatisme à la moelle épinière, la situation change. Le circuit du système nerveux autonome étant interrompu, la température du corps d'un lésé médulaire a davantage tendance à fluctuer au gré de la température ambiante. Donc, si vous vous trouvez dans une pièce très chaude, votre température corporelle peut facilement s'élever, et cela peut conduire à des complications. L'hyperthermie. L'hyperthermie est une élévation de la température du corps qui peut se produire lorsque vous vous trouvez dans un endroit très chaud sans air climatisé, ou encore si vous passez trop de temps sous un soleil de plomb sans ombre. Quand votre corps surchauffe et que la chaleur ne peut s'échapper sous forme de transpiration, vous vous sentez mal à l'aise et irritable. Cependant, certains tétraplégiques, comme Aldric Vincent, ne peuvent plus transpirer, même en cas de grande chaleur. Leur système d'évacuation de la chaleur interne, qui est la transpiration, leur fait malheureusement défaut. Il est cependant possible de percevoir certains signes et symptômes qui vous avertiront d'un danger. Peau rougie, chaude et sèche, sensation de faiblesse et de vertige, vision brouillée, mal de tête, nausée, température élevée, battements cardiaques rapides et irréguliers. Il est important de tout faire pour éviter l'hyperthermie si vous êtes exposé à une grande chaleur. Voici ce que vous pouvez faire pour réduire la température de votre corps. Cherchez un environnement frais, un lieu ombragé ou utilisez un appareil qui augmente la circulation de l'air comme un climatiseur ou un ventilateur. Portez des vêtements amples et de couleur claire. Vaporisez votre corps d'un mélange composé à moitié d'eau et d'alcool, ou simplement d'eau, ou appliquez une serviette humide dans votre cou, ce qui vous permettra d'abaisser votre température corporelle. Reposez-vous plus souvent et ralentissez vos activités les jours de forte chaleur. Buvez des liquides rafraîchissants. Il est important de savoir également qu'une exposition à une chaleur extrême peut causer un épuisement. Il est causé par une grande perte de liquide corporel, ce qui amène à une hypotension artérielle. Votre peau devient moite et froide et vous vous sentez sans énergie. L'épuisement, lui, peut aussi conduire à un coup de chaleur. À l'inverse, la peau devient sèche et la température, qui continue de grimper, augmente la probabilité de dommages au cerveau. Il est donc important de noter que si la température de votre corps est très élevée et ne peut être baissée pendant une période de 30 à 60 minutes, rendez-vous aux urgences. Aldric Vincent, tétraplégique et son coup de chaleur. En partageant ses meilleurs souvenirs d'été depuis 6 ans qu'il est en fauteuil, Aldric Vincent s'est aussi souvenu du pire. Celui qui dit qu'il apprend et retient les choses souvent grâce à l'expérience, il faut le vivre pour le croire, se souviendra certainement longtemps de cet après-midi où il s'est retrouvé, par un malheureux hasard, seul dans les rues de Montréal. Ses amis ayant annulé leur rendez-vous à la dernière minute, Aldrich a décidé d'aller se promener. Rapidement, et sans qu'il ait pu réellement s'en rendre compte, il s'est retrouvé en surchauffe complète. Il n'allait pas bien du tout. Il était tellement mal qu'il s'est rendu en catastrophe dans un dépanneur où les employés, le voyant dans un mauvais état, ont accepté de le conduire dans leur frigo à l'arrière de la boutique pour lui laisser le temps de se refroidir. Citation : Il faut faire très attention, c'est très facile de faire une insolation et de surchauffer. Ma peau ne transpire plus. Je l'avais lu dans le manuel, mais je n'y croyais pas vraiment jusqu'à ce que je vive l'expérience. Fin de citation, raconte Aldrich. C'était 3 ans après son accident et il est très prudent depuis. C'était « Quels sont les effets des grosses chaleurs sur les personnes lésées médulaires ?» un texte d'Aline Van Compernol, paru dans la revue Paraquad numéro 163, été 2024.
Acheter des vêtements sans pouvoir les essayer. Un texte de Nathaël Morissette paru le 3 juillet 2026 dans la presse. Les adeptes du détaillant de vêtements Brandy Melville passent maintenant à la caisse sans avoir pu essayer au préalable la jupe, les jeans ou la camisole qu'ils achètent puisque les cabines d'essayage ont été condamnées dans ces magasins. Est-ce le début d'une tendance? Chose certaine, Brandy Melville, qui vend des vêtements de taille unique, ne fait pas cavalier seul. Les cabines ont été retirées il y a quelques années du Village des Valeurs, magasin de vêtements d'occasion, et certains Walmart, comme celui du marché central à Montréal, n'en mettent pas non plus à la disposition des clients. Je ne pense pas que ça va devenir une tendance, répond d'emblée Marie-Noëlle Cano, présidente de Cano Intelligence Collective et spécialiste de l'expérience client. Mais il sera intéressant d'observer quel segment du commerce de détail prend cette décision-là dans l'avenir. Pour le moment, la disparition des cabines s'observe surtout dans des magasins à bas prix, ceux qui font dans la mode jetable, fast fashion, ou encore des boutiques de vêtements d'occasion. Du côté de Brandy Melville, le virage a été pris il y a quelques semaines à peine. La chaîne, qui a des magasins un peu partout dans le monde, notamment à Montréal, a récemment bloqué l'accès à ses cabines d'essayage, sans donner de raison officielle. Or, des médias internationaux comme le Wall Street Journal rapportent que dans beaucoup de salles d'essayage, de la gomme à mâcher aurait été utilisée pour bien fermer le rideau et assurer plus d'intimité, une pratique popularisée par TikTok. C'est ce qui aurait incité le détaillant à prendre cette décision. Lors d'une récente visite à l'adresse de la rue Sainte-Catherine dans la métropole, la presse a pu constater que l'accès aux cabines était effectivement bloqué. Alors que le magasin était bondé d'adolescentes, une employée nous a confirmé qu'il n'était plus possible d'essayer les vêtements, une façon, selon elle, de prévenir le vol et le vandalisme. De son côté, le Village des Valeurs explique que cette décision a été prise pour avoir de l'espace pour offrir un plus grand choix de marchandises et maintenir un environnement sécuritaire et propre. Nous savons que l'essayage des articles est une partie importante de l'expérience de magasinage en friperie pour nos clients, a écrit par courriel le service des communications de l'enseigne. C'est pourquoi, en plus d'avoir augmenté le nombre de miroirs dans nos magasins, notre politique d'échange pour les vêtements et les chaussures est de 14 jours, ce qui permet d'essayer les articles à la maison. Si un client a besoin d'une prolongation de ce délai, nous l'encourageons à s'adresser à un gérant ou à un superviseur du magasin. Walmart, pour sa part, affirme que les cabines d'essayage font toujours partie de l'expérience client. L'entreprise ajoute dans la foulée que la plupart des magasins en offrent. De temps en temps, nous testons différents plans d'aménagement dans les succursales. Les cabines d'essayage ne faisaient pas partie du plan d'aménagement lors de l'ouverture de notre succursale Walmart au marché central, a ajouté par courriel Félicia Pfeffer, porte-parole du détaillant. L'influence du magasinage en ligne. Avec les achats en ligne, nombreux sont les consommateurs qui achètent d'abord et essaient ensuite dans leur salon, souligne Mme Cano. Cette façon de faire est donc ancrée dans les mœurs de certains adeptes du magasinage. Est-ce que la concurrence en ligne a amené les détaillants à se demander pourquoi ils investiraient dans des salles d'essayage, se demande-t-elle? Parce qu'il faut comprendre que ça coûte de l'espace, ça coûte de la main-d'œuvre, puis ça fait que le client qui essaie achète peut-être moins. L'envers de la médaille, c'est que peut-être qu'il n'achètera carrément pas si on ne lui donne pas la possibilité d'essayer, nuance Marie-Noëlle Cano. Elle ajoute que tous les clients n'aiment pas essayer en magasin. Les files d'attente aux cabines, se changer dans un espace restreint. Néanmoins, Marie-Noëlle Cano souligne que les détaillants qui décident d'éliminer les cabines doivent avoir des politiques de retour flexibles. Dans le cas de Brandy Melville, les clientes ont 3 semaines pour échanger ou obtenir un crédit en magasin. Les consommateurs qui réalisent que les jeans achetés au Village des Valeurs ne sont pas de la bonne taille ont quant à eux 14 jours pour les échanger. Dans le cas de ces 2 détaillants, il n'y a pas de remboursement. Miser sur les cabines. Par ailleurs, si certains décident de les éliminer, d'autres accordent un soin particulier à leurs cabines. C'est le cas du détaillant de caleçons et de vêtements pour hommes Manmade. Uniquement en ligne jusque-là depuis sa fondation il y a 5 ans, l'entreprise a ouvert un magasin au CF Carrefour Laval au printemps et a misé sur ses cabines pour maximiser l'expérience de magasinage de ses clients. En entrant dans la cabine, nul besoin d'apporter une pile de vêtements dans différentes tailles. La salle d'essayage abrite un placard dans lequel se trouve chacun des vêtements signés Manmade, et ce, dans toutes les tailles. Women's, magasin spécialisé dans les vêtements pour femmes, a aussi fait ce pari. La fondatrice Andréane Marquis a décidé d'ouvrir des magasins après s'être fait connaître en ligne pour permettre à ses clientes de toucher les tissus et d'essayer les vêtements. En entrevue, Mme Marquis n'a pas caché sa surprise lorsqu'elle a appris que certains détaillants avaient décidé de rompre avec la tradition des cabines. Elle a su recevoir régulièrement des compliments à propos de l'aménagement de ses salles d'essayage, où l'éclairage a même été pensé pour flatter la silhouette. Selon Marie-Noëlle Cano, essayer des vêtements, pour beaucoup de consommateurs, demeure une expérience rassurante. Quand tu essaies la couleur, tu essaies la grandeur, tu essaies le tissu, ça fait partie de l'expérience qu'on veut vivre et à laquelle on est attaché. C'est juste normal. C'est quand même littéralement ce qu'on se met sur le dos. C'était « Acheter des vêtements sans pouvoir les essayer », un texte de Nathaël Morissette paru le 3 juillet 2026 dans la presse.
En prison, où devraient aller les personnes transgenres? Un texte de Samuel Bernard, paru le 17 avril 2026 dans Droits et Libertés. Le traitement réservé aux personnes transgenres en milieu carcéral ne peut que préoccuper vivement le Prisoner Correspondence Project, PCP, un collectif bénévole montréalais établi au sein du groupe de recherche d'intérêt public du Québec, GRIP, à l'Université Concordia. Il a pour but de forger des liens entre des personnes LGBTQ+, incarcérées au Canada et aux États-Unis, et des membres de la communauté LGBTQ+, en les invitant à entretenir une correspondance. Depuis 2007, le projet a permis à environ 1500 personnes détenues d'y participer et de réduire ainsi leur isolement. Plusieurs lettres sont publiées dans l'infolettre du PCP, qui soutient aussi des pétitions et appels lancés par des détenus, en plus d'organiser des ateliers éducatifs sur le système carcéral et le traitement des détenus LGBTQ+, ainsi que des campagnes de sensibilisation ou de pression politique menées en collaboration avec d'autres groupes. Une cible, les femmes transgenres. Les prisons sont dangereuses pour n'importe qui. La violence, qu'elle soit systémique ou interpersonnelle, les abus, les conditions de vie insécuritaires et l'isolement rendent l'incarcération extrêmement difficile à supporter. Il est essentiel de rappeler que les droits humains s'appliquent à tout le monde, quelle que soit la peine d'emprisonnement. Or, les conditions de vie des prisonniers ou prisonnières montrent que certaines personnes ne semblent pas mériter que leurs droits humains, comme le droit à la sécurité, soient respectés. Avec la montée de la transphobie dans le monde entier au cours de la dernière décennie, un groupe subit une intensification des violences et des discriminations, les femmes transgenres. Dans le cas du Québec, une directive du ministre de la Sécurité publique, publiée en juin 2025, impose désormais l'incarcération des personnes transgenres selon le sexe anatomique, c'est-à-dire le sexe assigné à la naissance. Cela touche évidemment toutes ces personnes, mais les médias et le gouvernement ont principalement discuté du cas des femmes transgenres en raison d'un discours transphobe de longue date, les présentant à tort comme des personnes dangereuses ou prédatrices. Ce discours est le suivant. Les femmes transgenres, qui ne sont pas de vraies femmes et peuvent être des hommes se faisant passer pour des transgenres, devraient être incarcérées dans des prisons pour hommes, car elles constituent une menace pour les femmes cisgenres, non transgenres. Ce point de vue est erroné à tous égards et reflète une profonde incompréhension de la réalité des personnes transgenres et de celle des prisons. Les femmes transgenres sont des femmes tout autant que les cisgenres. Le fait de placer les femmes transgenres dans des prisons pour hommes les expose à des risques accrus de violence et de violences sexuelles. Quiconque pense que des hommes pourraient se faire passer pour des femmes afin d'obtenir un avantage quelconque ne comprend pas les implications liées au fait de changer toute sa vie pour vivre en accord avec soi-même, tout le travail que cela représente, ni les dangers auxquels sont confrontées ces personnes. Si les transgenres ont toujours fait partie de la société, la récente panique morale ayant pour effet de les présenter comme un problème, et ce sans fondement, cible cette population vulnérable. En réalité, les femmes transgenres sont exposées à des risques élevés de violence dans la société en général, risques qui ne font que s'accentuer en prison. Lorsque les gouvernements plaident en faveur de l'hébergement des prisonniers ou prisonnières transgenres en fonction de leur sexe anatomique ou de leur sexe assigné à la naissance, ils affirment que c'est pour leur propre sécurité et celle des codétenus. Bien que certains ou certaines responsables politiques, mal informés, puissent réellement adhérer à ce discours, une telle mesure n'atteint pas cet objectif. L'incarcération entraîne des conditions plus dures pour les personnes transgenres, notamment sur les plans de la sécurité, de la santé et du respect de leur identité. Le fait de placer les femmes transgenres dans des prisons pour hommes les expose à des risques accrus de violence et de violences sexuelles. Par exemple, ces femmes transgenres sont souvent placées en isolement pour leur propre sécurité, de manière à les séparer des détenus qui pourraient les maltraiter. Or, dans l'ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, ce type d'isolement carcéral est considéré, règle Mandela numéro 44, comme une forme de torture au-delà de 15 jours. De nombreuses personnes qui l'ont expérimenté affirment que toute période passée en isolement est inacceptable. En plus de cette violence systémique, les femmes transgenres incarcérées dans des prisons pour hommes sont souvent la cible d'autres détenus et d'agents correctionnels. Elles sont agressées et humiliées en raison de leur identité et de leur expression de genre, et elles sont souvent incapables d'accéder à des soins liés à l'affirmation de genre, qu'ils soient médicaux ou sociaux, tels que des vêtements appropriés. En prison, les personnes transgenres sont donc traitées différemment et subissent des préjudices spécifiques en raison de leur identité de genre, une catégorie pourtant reconnue comme devant être protégée contre la discrimination au Canada. Toutefois, ce fait reste largement ignoré au sein de la classe politique. Sécuriser vraiment les prisons pour femmes. Lorsqu'on permet aux femmes transgenres d'être incarcérées dans des prisons pour femmes, le risque de violence auquel elles sont confrontées diminue, même s'il reste plus élevé que pour les prisonnières cisgenres. Elles ne représentent pas plus une menace pour ces dernières que les autres détenues. En fait, les femmes incarcérées sont confrontées à des dangers réels et connus qui n'ont rien à voir avec les transgenres. À Laval, la prison Leclerc pour femmes est connue pour ses conditions de vie insalubres, le mauvais traitement des détenus et les fouilles invasives. Cette question a été soulevée à maintes reprises, mais n'a rien changé. La situation a atteint un point tel qu'en février 2023, une ancienne détenue, Louise Henry, a intenté un recours collectif alléguant que les détenues y étaient soumises à des traitements cruels et inusités portant atteinte à leurs droits. Il est difficile de croire que cela ne se produit que dans une seule prison. Où se situe la menace dans cette situation ? Elle ne vient pas des personnes transgenres. C'est plutôt la façon dont le gouvernement décide de gérer les prisons et son attitude générale envers les personnes incarcérées qui conduisent à la normalisation de ce type de traitement. Les prisonniers et prisonnières sont victimes d'abus de la part du système, de la part des agents et agentes correctionnels et parfois de leurs codétenus. Leurs revendications pour que les prisons soient plus sûres n'incluent pas le transfert des femmes transgenres vers des prisons pour hommes. Rien ne prouve que cela rendrait les prisons pour femmes plus sûres. En revanche, de nombreuses preuves montrent que cela rend l'incarcération beaucoup plus dangereuse, voire mortelle, pour les femmes transgenres. C'était En prison, où devraient aller les personnes transgenres ? Un texte de Samuel Bernard, paru le 17 avril 2026 dans Droits et Libertés.
Jeunes trans. Une étude canadienne montre que la détransition demeure exceptionnelle. Un texte de Caroline Lavigne, paru le 17 juin 2026 dans Fugue. Une nouvelle étude menée dans plusieurs cliniques spécialisées au Canada conclut que la détransition demeure rare chez les adolescents ayant reçu des soins liés à la dysphorie de genre. Les résultats apportent de nouvelles données à un débat souvent polarisé sur les soins d'affirmation du genre destinés aux jeunes. Alors que les questions entourant les soins destinés aux jeunes transgenres occupent une place grandissante dans les débats politiques et médiatiques, une importante étude canadienne vient apporter de nouvelles données scientifiques sur la trajectoire de ces adolescents. Publiée récemment dans le Journal of Adolescent Health, la recherche a suivi 445 jeunes ayant reçu un diagnostic de dysphorie de genre dans quatre cliniques spécialisées canadiennes entre 2012 et 2017. Les chercheurs provenaient notamment de l'Université de la Colombie-Britannique, de l'Université Dalhousie, de l'Université de Calgary, ainsi que de plusieurs centres hospitaliers spécialisés. Le principal constat est sans équivoque. La très grande majorité des jeunes ayant consulté pour une dysphorie de genre continuaient de s'identifier comme transgenres ou de genres divers plusieurs années après leur première consultation. Un taux de continuité de 97 %. Selon les résultats, environ 97 % des participants maintenaient une identité de genre différente de celle qui leur avait été assignée à la naissance au moment du suivi. Les cas de retour à l'identité associée au sexe assigné à la naissance demeuraient peu fréquents. Les chercheurs ont également constaté que l'abandon des traitements hormonaux d'affirmation du genre était rare parmi les jeunes qui y avaient eu recours. Lorsqu'un arrêt survenait, il était souvent lié à des obstacles d'accès aux soins, à des difficultés administratives ou au fait que la personne estimait avoir atteint ses objectifs personnels en matière d'expression de genre, plutôt qu'à un rejet de son identité trans. Ces résultats s'inscrivent dans un corpus de recherche internationale de plus en plus étoffé, qui observent généralement de faibles taux de regret ou de détransition après l'accès à des soins d'affirmation du genre. Un débat devenu hautement politique. Au cours des dernières années, la question de la détransition est devenue un sujet central dans plusieurs débats entourant les soins destinés aux jeunes transgenres. Au Canada comme ailleurs, certains groupes affirment que de nombreux adolescents pourraient entreprendre une transition qu'ils regretteront plus tard. À l'inverse, plusieurs associations médicales soutiennent que les données scientifiques disponibles ne montrent pas une augmentation importante des regrets après une évaluation clinique appropriée. La nouvelle étude canadienne ne met pas fin à ce débat, mais elle apporte des données issues du suivi réel de centaines de jeunes ayant fréquenté des cliniques spécialisées. Les auteurs soulignent d'ailleurs que leurs résultats concernent des adolescents ayant bénéficié d'un encadrement médical spécialisé et non l'ensemble des jeunes qui s'interrogent sur leur identité de genre. La réalité complexe de la détransition. Les chercheurs rappellent également que la détransition ne constitue pas un phénomène uniforme. Certaines personnes cessent temporairement un traitement médical en raison de contraintes financières ou familiales. D'autres réévaluent leur identité de genre avec le temps. Certains reprennent éventuellement leur transition après une période d'interruption. Des recherches canadiennes récentes, menées notamment par le chercheur Kinnon McKinnon, montrent que les parcours de détransition sont souvent plus complexes que la simple idée d'un regret de la transition. Plusieurs personnes décrivent plutôt des trajectoires marquées par des changements identitaires, des contraintes sociales ou des obstacles à l'accès aux soins. Cette complexité explique pourquoi plusieurs experts invitent à éviter les généralisations lorsque le sujet est abordé dans l'espace public. Des soins toujours encadrés. Les résultats de l'étude rappellent également que l'accès aux traitements médicaux liés à l'affirmation du genre demeure fortement encadré au Canada. Avant d'obtenir des bloqueurs de puberté ou une hormonothérapie, les jeunes doivent généralement passer par plusieurs étapes d'évaluation impliquant des équipes multidisciplinaires composées de médecins, psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux et autres professionnels de la santé. Les chercheurs insistent sur le fait que leur étude ne porte pas uniquement sur les traitements médicaux, mais sur l'ensemble du parcours clinique des jeunes qui consultent pour une dysphorie de genre. Des données importantes pour le Canada. Alors que plusieurs provinces canadiennes réévaluent actuellement certaines politiques liées aux soins destinés aux jeunes transgenres, cette étude fournit des données nationales particulièrement pertinente. Elle vient également compléter d'autres travaux canadiens, dont ceux du projet Trans Youth Can et du Canadian Trans Youth Health Survey, qui documentent depuis plusieurs années la santé, le bien-être et les parcours des jeunes trans et non-binaires du pays. Pour les chercheurs, le principal enseignement est que les jeunes qui consultent dans des cliniques spécialisées présentent généralement une stabilité importante de leur identité de genre au fil du temps. Dans un contexte où les discussions sur les droits des personnes trans sont souvent alimentées par des anecdotes ou des controverses politiques, cette étude rappelle l'importance de s'appuyer sur des données scientifiques robustes pour éclairer le débat public. C'était Jeune trans, une étude canadienne montre que la détransition demeure exceptionnelle. Un texte de Caroline Lavigne, paru le 17 juin 2026 dans Fugue.